Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Avant de signer un projet d'accord à Bougival, les partenaires s'étaient retrouvés avec les acteurs économiques et sociaux pour ce qu'on a appelé un collège économique et social. Qu'en est-il ressorti? C'est ce que nous allons voir avec les trois invités qui sont avec nous cette semaine. La présidente du MEDEF, Mim Sidélé, le vice-président de la branche BTP pour la CPME, Christophe Dautieu, et Thomas Sevêtre, le président du SEM, le syndicat des exploitants exportateurs de minerais. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Un jour et demi pour évoquer de très très nombreux sujets. Mim Sidélé, vous êtes rentré directement dans cette réunion, dans le vif du sujet avec les partenaires et les acteurs autour de la table.
Oui, absolument. On a eu finalement un temps assez court pour s'exprimer. On s'est efforcé d'utiliser au mieux le temps qui nous a été donné dans une séquence qui était très importante, cette séquence de négociation. C'était important pour nous de porter la parole du monde économique, mais aussi des Calédoniens qui souffrent tous de la situation économique actuelle. Et remettre l'économique et le social au cœur des débats, pour nous, c'était une priorité.
Est-ce qu'il y a eu la volonté dès le début d'accrocher un éventuel accord économique ou un pacte économique à un accord plus large s'il devait être signé?
Oui, absolument. Nous l'avons demandé tous. C'est que soit véritablement écrit les pistes de relance économique. Évidemment, on va peut-être en parler plus en détail, mais on est assez déçus de ce qu'il en ressort dans le projet d'accord. Et on espère pouvoir continuer d'y travailler pour préciser davantage tout le volet économique et social.
Christophe Dautieu, vous partagez le même sentiment. Des sujets importants abordés, mais du concret encore en devenir, si j'ose dire.
Oui. On partage la CPME également, mais on a plus assisté à une exposition de les problématiques de chacun, que ce soit les chambres consulaires ou les organisations patronales, avec effectivement que le format était pour nous un peu mal présenté ou proposé, où on s'est retrouvé en présence également des politiques. On pense que ça aurait pu être un peu plus construit, peut-être sans la présence des politiques de Nouvelle-Calédonie, on aurait pu se retrouver ensemble. Avec le ministre de l'Outre-mer, ça s'est fait comme ça. On a pu s'exprimer sur tous les points avec un certain nombre de personnes aussi en visio de Nouvelle-Calédonie. L'idée, c'était vraiment de faire ressortir notre fond de notre vécu de ce qui se passe depuis un an et voire un peu plus parce que la Calédonie était déjà en difficulté bien avant. Et de là, ben, on espère que on déroule. Dans les semaines qui arrivent, à rentrer un peu plus en détail et de trouver réellement des axes concrets pour retrouver une lueur de relance économique que tout le monde attend. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises attendent qu'une chose, c'est une relance. Cet accord politique qui vient de signer, c'est bien, c'est une lueur d'espoir. Mais ce n'est pas ce qui va encore donner du travail dès demain aux entreprises locales.
Mim Sidélé.
Oui, dans les grandes lignes, bon, nous, on était plutôt contents que les politiques calédoniens soient présents pour entendre les propositions qu'on avait à faire sur ce sujet. Et on retrouve dans le projet d'accord politique les grandes lignes et les grands axes de travail qui sont les nôtres. Pour autant, le temps joue contre nous aujourd'hui, et on ne va pas se leurrer, se voiler la face. C'est l'État qui financera la reconstruction et la relance de la Nouvelle-Calédonie. Et l'État, son bras armé pour financer tout ça, c'est le projet de loi de finances 2026. Et donc, on joue contre la montre, en réalité, parce que le projet de loi de finances 2026, il commence à se débattre maintenant. Ça n'a échappé à personne. Hein, les discussions sont en cours. Et nous devons faire valoir très rapidement tous les éléments et toutes nos demandes de façon à ce qu'ils soient intégrés dans ce PLF 2026. Et donc, pour notre part, nous avons déjà commencé à y travailler.
Alors, il y a eu un chapitre consacré au nickel, on en parlera avec vous Thomas Sevêtre, mais avant de voir un peu le contenu des discussions et ce qu'il en ressort, est-ce qu'on peut faire un point aujourd'hui sur l'état du secteur nickel en Nouvelle-Calédonie?
Alors le secteur nickel, malheureusement son état ne s'est pas amélioré ces derniers temps. On est toujours dans des situations de blocage sur les sites miniers de la côte Est qui impactent très fortement un certain nombre des acteurs miniers et industriels de la Nouvelle-Calédonie. Le contexte international fait que on ne nous attend pas à l'extérieur. Hein, la concurrence indonésienne est maintenant, je dirais, on a plus besoin de la présenter ou de l'évoquer. Elle est permanente et elle ne fait que s'accroître. Hein, le rôle de ce pays est amené perdurer de façon très massive dans les prochaines décennies, avec une stratégie très très bien pensée de par le gouvernement, par le gouvernement indonésien, qui a une stratégie de long terme pour le développement de son industrie. Donc les annonces qui ont été faites, bon ben c'est le j'espère le début de longues et fructueuses, j'espère, discussions. Les points qui ont été mis en avant sont, je dirais, des points de bon sens. Maintenant, le diable pouvant se cacher dans les détails, il faut savoir un petit peu quelles sont les intentions des uns et des autres sur les différents points qui sont évoqués dans l'accord.
On y reviendra évidemment dans un petit instant. Au-delà du secteur du nickel qui a tenu une place importante dans ces négociations, est-ce que la question de la diversification de l'économie a été une fois abordée, ou est-ce que finalement c'est pas l'enjeu de ce qu'attend les Calédoniens et des décisions à prendre, Mimsy Dalley?
Oui, la question de la diversification a évidemment été abordée sur les filières prioritaires qu'on avait déjà identifiées dans les travaux qu'on mène depuis déjà plusieurs années. Également, l'économie en terre coutumière, le développement de nouveaux modes économiques sur une grande partie du territoire. On a beaucoup parlé notamment de la contribution des terres coutumières à l'autonomie alimentaire de la Nouvelle-Calédonie, par exemple. C'est des sujets qui ont été abordés. Mais plus loin de ça, je dirais qu'on a aussi beaucoup parlé de formation et de la problématique de la jeunesse, qui en revanche ressort moins dans le document final. La pénurie et les manquements de la formation en Nouvelle-Calédonie, ça a été un des axes qui a été particulièrement abordé et qu'on est déçu de ne pas retrouver de façon plus claire et plus précise dans ce projet d'accord, même si c'est rapidement évoqué.
Est-ce qu'il y a des points qui ont quand même été tranchés ou en tout cas d'une certaine façon validée, même s'il reste encore, j'imagine, des étapes à franchir? Mais on a parlé d'une extension de la garantie émeute, on a parlé du déblocage du fonds de solidarité de l'État. Est-ce que ces choses-là ont donné lieu à des propositions concrètes, Christophe Dautieu?
Alors, les choses avancent. Ça ne peut qu'avancer, ça ne peut pas forcément reculer. Mais effectivement, on a parlé, les choses se sont comprises. Aujourd'hui, on a parlé, par exemple, d'un comité central de réassurance qui existe en métropole, qui appartient à l'État, et qui, on a demandé à ce qu'il soit mis en actif pour le territoire, pour prendre le relais sur la clause émeute. Pour moi, ça a avancé, mais c'est toujours pas concrétisé, et que les choses restent encore à être faites dans les futures semaines qui arrivent.
Même si délai sur cette question des assurances.
Oui, je dirais que plus généralement, hein, vous parlez d'acquis. Le principal acquis, c'est un acquis de méthode, c'est à savoir la participation
active. Je pensais terminer par ça, parce que ce n'est que le cadre finalement qui m'a permis de travailler.
De l'État via la mission interministérielle, de Claire Durieux, donc un interlocuteur unique qui va intervenir sur l'ensemble des ministères sous l'autorité du Premier ministre, et avec évidemment le ministère des Outre-mer, sur toutes les problématiques liées à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. C'est avec Claire Durieux que nous, partenaires sociaux, nous allons bâtir, nous l'espérons dans les toutes prochaines semaines, un plan beaucoup plus robuste, pour lequel il faudra aller chercher des arbitrages financiers au niveau du PLF 2026. Mais pour répondre à votre question, Jean-François, des acquis clairs, nous n'en avons pas, si ce n'est un catalogue de bonnes intentions qu'on ne remet pas en compte et qui en cause et qui ont le mérite d'être couchés noir sur blanc. La construction d'un centre pénitentiaire, évidemment le financement de la transition énergétique en faveur de l'industrie métallurgique. Néanmoins, tout ça maintenant demande à être matérialisé concrètement par des lignes budgétaires et surtout mis en œuvre.
Et ça, c'est la mission interministérielle de reconstruction dont va s'occuper Claire Durieux, qui sera chargée de ça. Elle s'est déjà mise au travail, cette mission interministérielle?
Oui, elle est nommée depuis le 1er juillet. On a eu une première réunion de travail à Paris. On a profité
dans
de notre présence dans la foulée immédiatement avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, je le précise. Hein, Christopher Gigès était présent et cette réunion a eu lieu à son initiative. Et oui, on va être amené à travailler très très rapidement avec Claire Durieux, qui devrait être à Nouméa ou en Nouvelle-Calédonie courant du mois d'août.
Parce qu'il y aura pour la reconstruction, il y a évidemment des mesures que l'État peut accompagner et sur lesquelles il peut s'engager. Il va aussi penser à les choses sur le plus long terme. Il y a aussi des mesures qui doivent être prises au niveau du gouvernement et des élus en Nouvelle-Calédonie. Christophe Dautieu, il y a un double travail à mener.
Ah, il y a surtout un travail dans les réformes que doit amener le territoire. Aujourd'hui, on nous présente, il y a 55 réformes à effectuer. Alors, sans forcément marquer les ambitions, mais on a déjà du mal depuis des années à faire quelques réformes. Donc 55 réformes en quelques mois, il faut peut-être un petit peu être réaliste. Je pense qu'il faut se fixer sur quelques réformes les plus importantes. Il y a la réforme de la TGC, il y a la réforme de, il y a le RUAM, il y a la fonction publique, et surtout la jeunesse, l'éducation. Je pense qu'il y a une restructuration de ce côté-là, une forte modification de tout ça. Mais voilà, il faut se poser clairement, effectuer ce qui est réaliste dans un temps donné assez court, mais le travail est là à effectuer très rapidement. Effectivement, quand je parlais de semaines, c'est par rapport à la visite de Claire Durieux qui doit être intervenue d'ici 2-3 semaines, il me semble. Donc il y a un travail à faire. Le travail, c'est le pacte économique qui complète l'accord politique qui fera l'accord global. Voilà. Donc tout le travail reste à faire à la suite de cet accord politique.
Alors parlons un petit peu du nickel, Thomas Sauvet. Vous n'étiez pas à Paris, mais vous avez participé par visioconférence à la réunion de ce collège. Le nickel dont vous avez rappelé qu'il était en difficulté aujourd'hui sur le territoire, ce qui est un secret de Polichinelle. Qu'est-ce que vous retenez des débats et des échanges qui ont eu lieu sur le nickel dans ce collège ?
Écoutez, il n'y a pas vraiment eu de débat. C'était d'abord, je pense, une première étape pour poser les problématiques qui étaient quand même déjà connues, puisqu'on a déjà eu l'occasion, nous, les industriels et les mineurs, d'exposer nos difficultés, mais aussi les atouts qu'on a dans notre poche pour pouvoir participer et être un moteur de la reconstruction. Évidemment, selon qu'on est industriel ou selon qu'on est mineur, la situation n'est pas du tout identique. Donc, c'est pas en 2 heures de débat que les problèmes ont été résolus. Il est bien évidemment tout à fait réjouissant de voir que les négociateurs de l'accord ont mis en priorité une relance de l'activité de l'usine en province nord. Tout le monde ne peut que souhaiter la relance de cet outil encore. Mais pour pouvoir le relancer, il faut bien évidemment trouver des investisseurs. Il faut bien évidemment passer d'abord par le point qui concerne l'accompagnement technique qui vise à transformer le système énergétique. Parce que la problématique des métallurgistes, c'est leur compétitivité vis-à-vis des concurrents indonésiens et chinois. Tant que cette problématique n'aura pas été résolue, il va se passer un laps de temps, je dirais, intermédiaire, dans lequel il faudra continuer à s'appuyer sur l'activité minière. Et en partie, évidemment, l'exportation.
Alors justement, il y a des mesures comme la relance de l'activité métallurgique dans le Nord qui prennent forcément du temps parce qu'il faut un repreneur, il y a des processus très longs. Il y a des choses qui semblent plus rapidement, qu'on peut mettre rapidement en œuvre. Je pense à la sécurisation de l'accès à la ressource ou à la facilitation de l'export de minerais dans le cadre d'une doctrine renouvelée. Ça, ce sont des choses qui peuvent aller plus vite que la relance de l'activité métallurgique dans le Nord.
Alors, tout à fait. Ça, ce sont des choses que l'on appelle de nos voeux. Ce sont des points sur lesquels on se penche déjà depuis un certain temps avec mes confrères. L'accès à la ressource se fera par, en effet, l'acceptabilité de la mine et de ses activités au pied de mine. On a déjà débattu autour de cette table. Et avec l'ensemble des acteurs, on était encore récemment avec le Sénat coutumier pour aborder ce problème. L'activité minière est mal perçue. Elle est mal perçue parce qu'on est certainement responsable de mal communiquer ou de mal expliquer nos métiers, quelles en sont les retombées. On a déjà une avancée là-dessus puisqu'on a fait en sorte que la nouvelle redevance à l'extraction soit fléchée vers les communes minières, mais ce n'est pas suffisant parce qu'au pied de mine, il n'y a que la mine. On parlait tout à l'heure de diversification et je pense que en effet, les organisations patronales doivent aussi s'impliquer dans améliorer la diversification des activités en brousse. L'activité minière est la principale activité de la brousse et les gens naturellement se tournent vers la mine et mettent une sorte de pression sur l'activité minière qui ne peut pas absorber toutes les demandes d'emploi, les demandes de formation, les demandes de développement. Voilà. Donc c'est un sujet absolument essentiel. S'il n'y a pas d'acceptabilité de nos métiers, on va continuer à se heurter à des murs et à des oppositions.
même s'il est.
Oui, juste un dernier point sur le nickel. Moi, je retiens quand même que il a été souvent évoqué la nécessité maintenant de jouer collectif en matière de filière nickel. L'ensemble des participants reconnaissent que la stratégie de division, quelque part, qui a prévalu sur le nickel ces 30 dernières années en Nouvelle-Calédonie n'a pas été payante.
Ou à défaut de division, chacun campait sur ses positions sans vouloir la bouger d'un iota, quoi.
Absolument. Et le fait d'aborder cette filière de façon dans un intérêt pour la Nouvelle-Calédonie en tant que collectivité, c'est très important. Et donc, on espère que ça va se concrétiser. Le ministre a annoncé un sommet sur le nickel d'ici quelques semaines. Donc, les travaux vont se poursuivre spécifiquement sur cette filière. Mais je reviens sur ce que vient de dire Thomas sur la diversification dans les communes minières. On porte depuis 3 ans l'importance de pousser le développement économique dans les terres coutumières en particulier. Et il y a une dizaine de jours a eu lieu en Nouvelle-Zélande un déplacement qu'on avait demandé, et était financé par la Nouvelle-Zélande pour étudier le modèle maori. La Nouvelle-Zélande n'a pas d'activité minière. En revanche, l'économie en terres coutumières maori pèse 10 fois plus que l'économie en coutumière en terres kanak, en s'appuyant essentiellement sur l'agriculture et la pêche. Et cette mission, qui a été un grand succès, hein, l'ensemble des participants s'en sont félicités, a permis de voir qu'il était possible, assez facilement, de développer cette économie primaire en terre coutumière et de diversifier notre économie. C'était même évidemment souhaitable.
Alors il y a, quand on parle du nickel, un gros sujet, il est transversal aussi, parce que c'est la question de l'énergie, évidemment, du système énergétique et de l'autonomie énergétique. Thomas Sauvêtre, là, sans aide de l'État, les choses ne pourront pas avancer sur ce sujet.
Bon, les différents industriels que vous avez déjà invités autour de votre micro, le rappel à chaque fois.
Oui. Hein, il n'y a pas de mystère.
Il n'y a pas de mystère. Les coûts de l'énergie en Nouvelle-Calédonie par rapport à nos concurrents sont facteurs 4 ou 5. Donc on ne peut pas se battre. Enfin, du moins, nos industriels ne peuvent pas se battre à armes égales. Et je mets de côté le désavantage, on va dire, en termes de droit du travail ou de droit environnemental. Donc c'est absolument essentiel. Simplement, si une solution est trouvée et si elle est financée, ce qu'on appelle évidemment de nos voeux, ça va mettre plusieurs années à se mettre en place. Et sur plusieurs années, s'il n'y a pas des méthodes intermédiaires, enfin je dirais des moyens intermédiaires pour pouvoir pérenniser les activités jusqu'à la mise en place de ces nouvelles structures de génération d'énergie, on n'y arrivera pas.
Voilà. Donc le temps est compté, parce que plus on attend pour décider, plus ce sera long à mettre en place.
Alors le temps est compté. Je rappelle que bon, s'il y a des oppositions dans les différents modèles, elles sont avant tout politiques. Les acteurs industriels et les miniers travaillent de concert depuis très longtemps. Je veux dire, on a des activités croisées, les uns chargeant les minéraliers des autres, les uns vendant du nickel à la NMC pour lui donner la main.
Voilà, il y a
vraiment l'entraide, elle a toujours existé. Hein, mes confrères et moi sommes en relation permanente et on fait en sorte justement de pérenniser au maximum nos activités et d'aider là où on peut l'être. Mais cette problématique du financement de l'énergie échappe évidemment aux mineurs. Les industriels sont un peu plus impliqués. Mais ça va prendre du temps. Il faut que les gens soient bien conscients que ce n'est pas parce qu'on a signé l'accord que dans 6 mois, il y a une usine qui va se construire.
Alors cette question illustre parfaitement un problème que connaît la Calédonie, cette question du système énergétique et de l'approvisionnement en autonomie énergétique. Ça fait évidemment écho aux difficultés que rencontre Enercal, parce que ça fait écho aux difficultés que rencontrent les finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, qui est aujourd'hui exsangue. Tout le monde le sait. Est-ce que, Christophe Dautieux, cette question-là de l'aide que l'État pourrait apporter aux collectivités publiques en Calédonie a été abordée?
L'aide de l'État, ça va se conjuguer par rapport à la stratégie, pour l'instant, visée sur le nickel. La stratégie nickel ne doit pas être une stratégie nickel pour le nickel. Pour en revenir sur la stratégie de développement de secteur, effectivement, il faut qu'il y ait un fonds souverain, par exemple, qui soit créé pour que, financé par rémunéré par le nickel, de façon...
On en parle depuis des années. Hein,
c'est clair. Aujourd'hui, on parle de développement dans les villages miniers, on parle de développement dans les zones coutumières, mais déjà, je pense qu'il faut déjà poser la question aux personnes concernées, donc les villageois. On peut nous-mêmes aborder une autre vision, mais je pense que c'est d'aller sur le terrain déjà, de voir les besoins, les demandes, et ce qui est possible de faire déjà simplement pour développer quelque chose en dehors du nickel dans les villages miniers. Pour les terres coutumières, effectivement, que c'est dommage que ça. On en parle maintenant, mais ça fait des années que ça aurait dû être fait. À partir de là, il faut aussi prendre la problématique de la restructuration aussi culturelle, coutumière. Aujourd'hui, il y a des maillons qui manquent dans ce maillage. Et je pense qu'il y a aussi à comprendre, écouter les problèmes manquants au sein du système coutumier, de façon à aborder ensuite, après maillage, la question du développement des zones coutumières. Toujours penser avant de construire, c'est voilà, on fait pas forcément toujours les choses dans le bon ordre.
J'en reviens, même si délai, à cette question hein, du financement des collectivités publiques, parce que ce sera quand même quelque chose de très important, le soutien que l'État pourra amener derrière. Est-ce que ça a été évoqué? Est-ce qu'il y a des pistes concrètes qui ont été mises en place? Alors, est-ce que les fameux prêts vont être transformés en subventions? Enfin, oui. C'est les questions qui reviennent régulièrement.
Oui, ça a été au cœur des débats, évidemment. L'aide de l'État, de toute façon, est incontournable. On a beaucoup parlé de la stratégie. Alors oui, bien sûr, la transformation des prêts en subventions qui donnerait un bol d'air au
là,
budget de la
Nouvelle-Calédonie. Hein.
Non, il n'y a pas de décision, ça a été très clairement dit. L'État est toujours sur une ligne argent contre réforme. Hein, ça a été très très clair. En revanche, nous avons demandé... Et nous avons expliqué aussi que sans grands travaux, très très rapidement, nous allons tout simplement pas réussir à s'en sortir, parce qu'il faut relancer l'investissement et l'État, via l'investissement public, peut relancer assez rapidement, notamment le secteur du BTP. Aujourd'hui, si rien n'est fait, c'est 1000 emplois supplémentaires qui sont menacés directement dans le secteur du BTP. Donc, c'est extrêmement urgent. On a avancé des pistes sur un certain nombre de travaux qui pourraient être menés. Aujourd'hui, deux sont reprises dans le projet d'accord. Donc, c'est la construction d'un centre pénitentiaire et la fameuse STEP pour la transition énergétique. Mais il y en a d'autres. Et donc, c'est pour ça qu'on espérait un plan beaucoup plus robuste d'investissement public. Parce que ce n'est pas le fonctionnement nous, qui nous intéresse. On a aussi beaucoup parlé de la réduction de la dépense publique et de la réduction notamment des coûts de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie et de ces autres institutions. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'investissement public.
Et la question de la réforme, là, ça fera plutôt du volet politique hein, sur ce qui concerne les institutions. Alors, vous l'avez dit, il y a un cadre de travail qui est mis en place. Est-ce qu'il y a un calendrier qui a été défini? Parce que chaque fois que les acteurs économiques se succèdent sur ce plateau, ils expliquent l'urgence qu'il y a à changer les choses, à trouver des réformes. Thomas Sevestre, est-ce que, par exemple, par rapport à la mine, il y a une sorte de calendrier qui a été mis en place, ou est-ce que, pour l'instant, vous êtes un peu dans le flou?
Alors, je dispose des mêmes informations que tout le monde, c'est-à-dire que la mission interministérielle doit se mettre en place à partir de la deuxième quinzaine du mois d'août, mais le calendrier n'est pas encore fixé. On sera bien évidemment à la disposition des personnes qui seront là pour nous écouter et à qui on fera part de nos propositions, hein, qui sont connues et sur lesquelles on a déjà échangé. Maintenant, il faut pouvoir les mettre en place rapidement. Encore une fois... Pour rebondir sur les questions relatives au financement des collectivités, l'activité minière est opérationnelle à ce jour en dehors de certains sites de la côte Est. Et il faut pouvoir s'appuyer là-dessus aujourd'hui. Nos clients sont à l'extérieur et ne sont pas, je dirais, impactés par les émeutes. On continue de nous acheter du minerai. Même si certains défendent une doctrine qui n'est pas favorable encore à ce jour aux exportations, il faut s'appuyer sur ce ressort qui fait qu'aujourd'hui, les outils industriels et de production sont intacts sur la plupart des sites, y compris ceux qui sont fermés à ce jour, et que le meilleur moyen et le plus sain pour financer une collectivité, c'est que les collectivités collectent de l'impôt et ne pas aller chercher de l'argent à l'extérieur. Donc nous, on est tout à fait disponibles pour continuer à produire, à vendre. Il faut avoir accès à la ressource, mais j'insiste, on a autour de nous des sous-traitants tout à fait compétents, des salariés et des employés qui sont tout à fait investis, plus tout le tissu économique de la Brousse, que ce soit de Koumac à Wailou, en passant par Poya et Tontouta. Il faut s'appuyer sur ce qui marche. Aujourd'hui, une partie de la mine fonctionne. Elle ne fonctionne pas à 100%, mais elle est capable, rapidement, d'apporter au territoire un second souffle, mmh. en attendant mieux.
Qui étaient, même si délai, les ministres qui étaient autour de la table? Parce que ça en dit long peut-être sur la manière dont les choses vont s'articuler ensuite.
Alors, dès le 2 juillet, hein, il y avait une représentation de l'État qui était quand même considérable, puisque le Premier ministre a participé à la session d'ouverture autour du président de la République et du ministère des Outre-mer. Amélie de Montchalin, donc la ministre des Comptes publics, a fait l'ouverture de la session économique avec un message qui a posé le ton, hein, puisqu'elle a parlé des finances de la France. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement vigilants, en fait, au contenu et au fond de cet accord économique et social. Elle a rappelé que les finances de l'État étaient évidemment très limité.
On rappelle que le Premier ministre cherche à faire 44 milliards d'euros d'économies pour le budget 2026.
Absolument. Et c'est pour ça que quand vous parlez de calendrier, je vous dis, on ne va pas attendre un calendrier, nous allons le fixer. C'est-à-dire que pour nous, c'est le PLF 2026. Donc pour nous, fin août, ces travaux doivent être absolument quasiment bouclés. Hein, en réalité, on ne pourra pas attendre beaucoup plus longtemps parce que l'économie calédonienne ne peut pas attendre un PLF 2027. Mmh. Il faut que ces investissements soient inscrits comme des lignes budgétaires sur l'année prochaine, absolument.
Christophe Dautieux, tout le monde est prêt à travailler ensemble dans ce sens-là, j'imagine, en Nouvelle-Calédonie?
On n'a pas le choix. Pas du tout le choix. Effectivement, qu'il faut lancer un grand projet, de plusieurs projets, rapidement, quitte dans le temps qui nous est donné, court, peut-être lister assez rapidement des choses concrètes, de façon à les budgéter rapidement pour les rentrer dans le budget national, de façon à avoir la matière pour les lancer rapidement. C'est vrai que de donner cette vision de la prison, c'est pas forcément l'image qu'on peut donner pour
de la construction de la prison.
Ouais, la construction de la prison, mais un visage d'éducation et de la jeunesse. Je pense que la prison doit être aussi accompagnée, par exemple, par un centre fermé type RSMA, de façon à éduquer aussi au sein de l'enfermement. Parce qu'on voit bien qu'à la sortie, ça n'arrange pas forcément les choses. Mais en tout cas, ce listing de grands projets, on peut parler de... Il y a le pont du Mont-d'Or, il y a le pont du Coutio, il y a la 2x2 voies, il y a aussi des écoles professionnelles polyvalentes de secteur aujourd'hui. Il y a des CFA qui ont été brûlés, saccagés. On a beaucoup de pertes aussi d'écoles standards. Mais aujourd'hui, il faut aussi peut-être réfléchir différemment à comment former les jeunes en rassembler sur un même lieu différents métiers qui sont du même secteur pour justement avoir cette force de polyvalence au sein de la formation.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission pour nous parler de ce collège économique et sociétal dont on a bien compris qu'il avait fixé des axes de travail mais qui restait en fait à les mettre en œuvre et que ça va commencer à la mi-août, hein, on peut dire ça comme ça, avec la mise en place de la mission interministérielle de reconstruction sous l'égide de Claire Durieux qui sera opérationnelle après les vacances métropolitaines en fait, puisque ce sera après le 15 août. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau, une émission qui sera disponible en réécoute dans quelques instants sur notre site internet rrb.nc.
C'était les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.